Alors bonjour à tous, je n'ai pas eu l'occasion de saluer tous, chacun, ce matin, mais on est dans la joie avec mon épouse et nos enfants de pouvoir être parmi vous ces deux dimanches. On a eu le privilège que la famille pastorale, donc David et Kimberley, nous prêtent leur maison. Alors quand ils nous ont proposé cela, ça a été une joie d'accepter et de pouvoir être avec vous. Et en plus, il m'a demandé d'apporter la parole, ce qui est un privilège aussi pour moi. On a apporté aussi une petite spécialité de Limoges au fond, juste à côté du climatiseur, donc servez-vous. C'est une petite madeleine, donc c'est un petit sac individuel chacune, donc prenez-la. Vous avez sans doute faim, vous aurez sans doute faim en sortant. Si vous voulez attendre le dessert, vous attendrez le dessert. Mais voilà, c'était pour marquer une petite attention. Et puis vous avez aussi le bonjour de l'Assemblée de Limoges. On vient de Limoges, effectivement. Je vous invite à prendre avec moi Exode chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, et ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Prions. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce ce matin de pouvoir ouvrir ta parole. Ta parole qui nous conduit dans la vérité, ta parole qui est la vérité. Nous voulons te prier que tu disposes nos cœurs à la recevoir, à la comprendre et à la mettre en pratique dans notre vie. Par le nom précieux de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, j'ai intitulé ce message « Le veau d'or ». Histoire bien connue du peuple d'Israël dans la traversée du désert. Mais j'ai donné aussi un autre titre, plutôt l'idolâtrie, un danger bien réel. Et c'est vrai que lorsqu'on réfléchit au peuple d'Israël qui vient de vivre tant de délivrances merveilleuses, en sortant du pays d'Égypte, en voyant Dieu agir de manière extraordinaire dans ses jugements, au travers des 10 plaies, mais aussi surtout dans la délivrance du peuple lui-même en sortant d'Égypte, en traversant la mer Rouge, en pourvoyant à l'eau, nécessaire, etc. Donc déjà, ils avaient vu la main de Dieu. Mais les voilà qui tombent dans l'idolâtrie. Alors, on pourrait se dire, mais ils n'ont rien compris. Mais ce matin, j'aimerais qu'on se pose la question pour nous-mêmes. Nous avons sans doute, et je l'espère, vécu de grandes délivrances. Au moins une, celle du péché. Et vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ et alors être délivré du péché, du pouvoir du péché et de ce monde. Mais sans doute avez-vous vécu, si vous vivez pleinement avec le Seigneur, de grandes délivrances aussi. Et le Seigneur qui pourvoit de manière merveilleuse à ce que nous avons besoin. Mais nous pouvons encore tomber dans l'idolâtrie. Et j'aimerais voir ce matin que ce revirement bien malheureux, eh bien, qui est arrivé au peuple d'Israël, nous n'en sommes pas à l'abri. Si nous tournons en 1 Corinthiens 10, verset 7, l'apôtre Paul rappelle tout ce qui s'est passé dans le désert, du moins une grande partie de ce qui s'est passé dans le désert. Et au verset 7, il dit « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » L'apôtre Paul rappelle ce qui s'est passé au peuple d'Israël et dit « Ne devenez point idolâtres aux Corinthiens, mais à tout le monde, à tous les chrétiens. » Il nous met en garde contre l'idolâtrie. Nous ne sommes pas à l'abri. Seule la foi nous en gardera. On voit à deux reprises dans le Nouveau Testament où il nous est mis en garde contre l'idolâtrie, toujours dans ce chapitre 10, verset 14, il dit « C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Il nous exhorte à fuir l'idolâtrie. Donc, nous sommes sujets au danger de l'idolâtrie. Ici, le contexte de ces quelques chapitres, c'est la liberté. Et il développe ce merveilleux sujet que la liberté que nous avons en Christ. Si nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes libres. Et non pas la liberté que ce monde donne, mais la liberté du péché. On peut refuser de pécher. La liberté par rapport au monde. La liberté par rapport à Satan. Parce que dès lors, nous avons un nouveau maître. Et donc, il nous dit de nous garder de l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que la liberté peut être une idolâtre, une idole. Ah bon ? L'idolâtrie peut être une idole. Et oui, si nous mettons la liberté et dire « Moi, je suis libre. Moi, je fais ce que je veux. » Eh bien, finalement, on va finir par tomber dans l'esclavage de cette idolâtrie. Et en se croyant libre, on retombe dans une autre idolâtrie. Et on croit qu'en étant libre, on va demeurer en Christ. Mais c'est le contraire. C'est en demeurant en Christ qu'on restera libre. Donc il développe ce sujet et on voit combien la liberté n'est pas une chose évidente à vivre dans la vie du croyant, parce que dès lors nous sommes responsables de nos actes. Si nous sommes libres, eh bien on nous demandera des comptes aussi de ce que nous avons fait de cette liberté. Le risque de la liberté, c'est de la perdre. Le meilleur moyen de conserver sa liberté, c'est de l'utiliser pour se mettre au service du Seigneur. Et la réelle marque de cette liberté, c'est de savoir s'en priver. Alors, je vous donne quelques éléments de ces merveilleux chapitres, mais de voir combien la liberté peut devenir une idole. Un autre endroit, en 1 Jean, dans l'épître de Jean, Jean conclut de manière surprenante. J'ai été très surpris, il n'y a pas longtemps, en lisant cet épître et de voir comment il le conclut. Et regardez avec moi comment il conclut. Verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, quand on connaît un peu l'épître de Jean et vous l'étudiez en ce moment, le sujet principal de cet épître, c'est l'amour. Et Jean est cet apôtre qui nous parle de l'amour. Eh bien, il va conclure sa lettre avec « Gardez-vous des idoles ». Alors je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire ici ? Eh bien, dès lors qu'on commence à avoir une idole, eh bien, c'est qu'on commence à ne plus aimer Dieu. Et notre amour se détourne de Dieu et se tourne vers une idole. Comment pourrons-nous alors aimer Dieu et aimer notre frère et sœur si nous avons une idole dans notre vie ? On voit donc que l'idolâtrie, nous ne sommes pas à l'abri. D'où toute la pertinence de notre passage pour comprendre que nous ne sommes pas à l'abri de voir qu'est-ce qui les a amenés à cela, afin de veiller à ne pas tomber dans cette idolâtrie. Seule la foi nous en gardera. Alors, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez dans votre salon un veau d'or? Sans doute pas. Et c'est vrai que ça peut nous faire sourire, cela. Mais peut-être vous avez une autre idole. Peut-être plus petite, peut-être moins flagrante. Quoique. Le risque de se fabriquer une idole, un veau d'or, dans nos cœurs, est bien présent. En Ézéchiel 14, verset 3, Ézéchiel 14, verset 3, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel et qui parle du peuple de l'époque. Et dit, fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ceux qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux ? On voit donc ici qu'ils avaient leur idole dans leur cœur. Ils les aimaient très fort. Et parfois, nous avons des idoles qui ne se voient pas, que les autres ne voient pas. Mais Dieu les voit. Dieu la voit. On examinera donc ce matin ce revirement du peuple d'Israël qui aura des sinistres conséquences puisque de nombreux morts seront à déplorer. Et puis nous remarquons dans ce chapitre que Dieu va refuser d'être au milieu d'eux. Et il va même dire, voilà ton peuple, il va dire à Moïse, ton peuple a fait ceci. Ton peuple s'est corrompu, dit-il à Moïse. Ce revirement bien malheureux prend sa source ici dans l'impatience. L'impatience et le manque de confiance dans le Seigneur. Nous voyons au tout début du chapitre le peuple voyant que Moïse tardait à descendre. Ça tarde. Il y a un ennui, on commence à attendre et puis bon, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne va pas attendre trop longtemps, on va pas. Voilà, on s'ennuie là, il nous faut quelque chose pour nous divertir. Moïse tardait, Dieu est donc oublié. On voit donc qu'il s'attendait à Moïse et nous-mêmes nous pouvons être déçus ou bien commencer à nous impatienter si nous attendons des êtres humains, si nous attendons un changement chez un tel ou une telle, si nous attendons quelque chose, mais si nous nous attendons au Seigneur, nous ne serons jamais déçus. Dans l'impatience, dans l'ennui, la lassitude, eh bien, c'est la chair qui va agir. Et dès lors, elle va chercher quelque chose à pour l'occuper, à adorer. Bien souvent, nous aimerions voir Dieu intervenir plus vite. Et pourtant, lui-même, il use de patience. Réjouissons-nous, au contraire, de ce qu'il agit pas plus vite à notre égard. Et qu'il est patient à notre égard. Nous voudrions bien souvent qu'il arrive, qu'il agisse plus vite. Mais utilisons ce temps d'attente pour le servir, pour méditer, pour lire, pour témoigner, pour utiliser le temps. Peut-être nous avons un petit temps, nous avons 10 minutes à tuer, comme on dit. Eh bien, au lieu de regarder ce que le monde fait, au lieu de regarder choses futiles, au lieu de se trouver un divertissement, bien, pensons à Dieu. Ou peut-être il a voulu ces 10 minutes pour que nous témoignions à la personne qui est à côté de nous. Ou peut-être il y a quelque chose. Mais ne nous ennuyons pas. Sur cette terre, nous n'avons plus à nous ennuyer si nous connaissons le Seigneur. L'impatience n'est jamais valorisée dans la parole, mais bien la patience comme une qualité remarquable. On voit donc le peuple qui se détourne pour alors se tourner vers quelque chose d'autre, qui dès lors devient une idole, puisque ce n'est plus Dieu qui regarde, mais à quelque chose d'autre, alors que c'est Dieu seul qui mérite notre gloire. Vous connaissez les 2 premiers commandements ? Tu adoreras Dieu seul, et tu ne feras point d'image taillée. Les 2 vont de pair. Alors, nous voyons ici plusieurs caractéristiques de ce détournement. Comment vont-ils se détourner ? Il nous est dit au verset 8, « Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. » On voit là Dieu qui montre qu'ils se sont détournés avec promptitude. Avec une grande rapidité. Peut-être vous me direz, mais ils ont déjà attendu 40 jours. Oui, mais le Seigneur, il nous demande plus. Peut-être vous priez pour quelque chose et vous ne voyez pas encore la réponse. Mais le Seigneur, il veut que vous persévériez. Et il veut que vous continuiez, mais pas se détourner. Le Seigneur est de dire, non, mais il ne répond pas. De se poser la question, peut-être, pourquoi ? Alors, pourquoi se détourne-t-il si vite, avec promptitude ? Eh bien déjà, il est important de se rappeler ce que la parole nous enseigne. Elle nous enseigne déjà que la porte est large. Et le chemin est large. La porte, elle est spacieuse. Hein ? Chemin spacieux. Celui qui mène à la mort. Et donc, il est facile de le prendre. Il est facile de l'emprunter. Tandis que la porte est étroite, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il n'est donc pas évident de le prendre. Mais si toutefois nous l'avons pris, eh bien, gardons les yeux sur le Seigneur. Rappelons aussi, avouons que nos pensées vont bon train. C'est intéressant de voir, on parle, mais pendant que je parle, vous, vous êtes en train de penser. Mais vous pensez bien plus que ce que je parle. Vous pensez beaucoup plus vite. Nos pensées, elles vont vite. Et donc, nos pensées, si on les laisse aller, elles vont vite trouver des choses à penser. Et se détourner de Dieu. Sachons donc maîtriser nos pensées et les diriger vers de bonnes choses. Les stopper si elles ne sont pas tournées vers le Seigneur. Sachons aussi que la marche par la vue nous est naturelle. la marche par la chair est quelque chose qui nous est à l'aise. On a une facilité. Dès qu'on voit, dès qu'on... Ah ben voilà, on est rassuré. Et tout va bien. Nous marchons facilement par la vue. Cependant, nous sommes appelés à marcher par la foi. C'est par la foi de chaque moment que nous avançons avec le Seigneur. Il est triste de voir dans notre passage que personne va émettre quelques réticences, quelques doutes, quelques freins de un tel revirement. Même pas Aaron, qui est responsable du peuple en l'absence de Moïse. Et voyant cet emballement du peuple, il va même contribuer. Et il va essayer de rattraper. Il va dire, voilà, ben on va faire une fête pour l'Éternel. Hein? Bon, c'est vrai, c'est une idole tout cela, mais bon, on va essayer de regarder sur Dieu. Combien aujourd'hui on fait du syncrétisme? C'est-à-dire un mélange, et mais pour que Dieu... Oui, oui, moi je crois en Dieu, mais à ma façon. Beaucoup nous disent. Mais c'est ça. On prend un peu d'une religion, un peu d'une autre, et on dit croire en Dieu. Quel Dieu? Je ne sais pas. Mais surtout pas, sûrement pas, le Dieu qui se présente dans la Bible. Le Dieu saint. Juste. Que notre marche, nos choix, ne soient pas pris avec précipitation, mais soient décidés à la lumière de la parole de Dieu. La Bible. Et soit un acte de foi. Pourquoi? Parce que ici, c'est avec promptitude. Ils se sont détournés rapidement. Mais lorsque nous prenons des décisions rapidement, elles sont rarement les bonnes. À moins que ce soit de se détourner du péché. Ça, on doit le faire rapidement. Si on se rend compte qu'il y a quelque chose, une mauvaise route qu'on a prise, revenons rapidement. Mais sinon, sachons prendre le temps, sachons poser nos décisions devant le Seigneur et examiner si c'est un acte de foi, si nous avançons par la foi. On voit deuxièmement qu'il se détourne avec peu d'imagination. Il se détourne vers quelque chose qu'ils avaient connu. Nous voyons que les Égyptiens adoraient un veau, un bœuf. Et les autres pays d'alentour également. Les Cananéens avaient un tel Dieu. Donc ils vont se détourner avec peu d'imagination. Dès que la décision est prise, hop, ils n'ont pas eu beaucoup à réfléchir, on va se faire un veau. Et ils ont fait un moule, je ne sais pas s'ils l'avaient déjà sous la main, mais ça leur a pas été difficile apparemment de le faire. Avec peu d'imagination. Regardez avec moi le psaume 106 qui nous rappelle ce passage. 106, 19 à 21. Ils firent un veau, verset 19, oui. 106, 19. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. On voit donc ici ce détournement vers quelque chose qu'ils connaissaient bien, un bœuf. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Quelle honte, quelle tristesse. C'est la même chose si nous avons une idole dans notre vie, c'est triste. Et c'est souvent quelque chose où nous usons de peu d'imagination, quelque chose qui nous entoure. Si notre changement ou nos changements sont superficiels, ils ne seront pas de longue durée. Les anciennes habitudes reviennent au galop. Non, le Seigneur, lui, veut agir profondément. Mais s'il n'y a pas eu de repentance authentique et fondée sur la parole de Dieu, cela est bien éphémère. On parle toujours de confesser nos péchés. Qu'est-ce que veut dire confesser? bien, ça veut dire « dire comme ». Eh bien, quand on confesse nos péchés, on dit comme Dieu dit. Alors, si Dieu dit que c'est un péché, eh bien, nous disons aussi que c'est un péché. Et donc, nous confessons la chose. Mais si nous la confessons, c'est parce que Dieu l'a dit comme cela. Et alors, si notre confession, si nos changements sont basés sur la parole de Dieu, alors ils seront durables. Mais si nous confessons nos péchés, ah oui, un tel m'a dit que c'était pas bien, bon, ben, je dis que c'est pas bien. Et puis après, il y a un autre, il me dit, oh, mais c'est bien finalement. Ah bon ? Eh bien, finalement, on ne sait plus. Et on est prêt à nouveau à changer. Est-ce que nous confessons nos péchés que Dieu dit que ce sont des péchés ? Ils se sont détournés avec peu d'imagination. Nous-mêmes, notre passé n'est pas si loin que ça. Soyons donc vigilants vis-à-vis de notre passé. Et nous pouvons facilement y retourner. Car nous pouvons facilement retourner. Soyons aussi radicales contre notre passé. J'entends parfois des personnes se disant chrétiens, disent « Oui, je faisais ça, bon, j'ai arrêté. » Mais on comprend bien qu'ils ne le condamnent pas. Et on n'est pas surpris si quelques mois plus tard, il y soit retombé. Nous avons besoin de condamner le péché. Soyons aussi lucides quant aux influences de notre passé. D'où l'importance d'être radical face aux habitudes, à nos habitudes, à notre caractère, à notre éducation que nous avons eue, qui n'ont pas été dans le Seigneur, parce qu'elles sont ancrées. Nous avons besoin de les mettre sur l'autel de la croix de Jésus-Christ. Lui qui a fait de nous une nouvelle création. Alors les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Troisièmement, nous voyons le détournement et se détourne avec dévouement. Il n'y a aucun frein ici dans ce revirement. Bien au contraire, le peuple manifeste un grand dévouement. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce dévouement, on voit déjà qu'il cherche un guide. Il nous est dit au verset 1, « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, il s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ils veulent quelqu'un à qui obéir. Ils veulent quelqu'un qui veut suivre en voyant les yeux. Ils veulent les suivre. C'est le contraire de la foi. Nous suivons quelqu'un que nous ne voyons pas. Nous croyons en quelqu'un que nous n'avons pas encore vu. Mais nous continuons. Eux voulaient voir quelqu'un devant eux. Ils cherchaient, on voit ce dévouement, un guide. Et bien que cette idole soit que leur propre fabrication, ils sont dévoués à leur obéir, à lui obéir. Quelqu'un qui marche devant eux. À vrai dire, on aime bien avoir un Dieu qu'on peut maîtriser. Qu'on peut lui dire ce qu'il doit nous commander de faire. C'est facile comme ça. On peut lui faire changer d'avis suivant nos besoins, suivant nos désirs. Beaucoup parlent de Dieu comme une béquille. C'est triste quand on dit ça. J'ai ma sœur jumelle, elle me dit « Oui, toi, depuis que tu crois en Dieu, c'est ta béquille. » Malheureusement, dans sa vie, elle a une idole, un dieu, mais elle ne se l'avoue pas. Et c'est bien elle qui a trouvé une béquille, car elle n'arrive d'ailleurs plus à s'en détacher. Et elle y marche avec dévouement. Les voilà qui cherchent un guide au lieu d'attendre. les directives de Dieu. Parce que Moïse était en haut pour apporter la loi, pour apporter toutes les directives. On voit dans leur dévouement, non seulement ils cherchent un guide, mais aussi ils sont généreux. Et c'est flagrant, cette générosité de chacun à participer à la confection de cette idole. On a lu, hein, enfin on nous a dit, citer ce passage, hein, « Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et on voit que dans leur fabrication d'idoles, ils étaient prêts à tout donner. Il n'y a pas eu de réticence, il n'y a pas eu de... Non, donnez votre or de vos femmes, de vos fils, de vos filles, tout ce que vous avez là de précieux. Ah bon, voilà, on apporte. Ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas dit « Je garderai et oh, je l'aime bien quand même, non, pour fabriquer cette idole, alors je suis prêt à tout donner. » Vous voyez cette générosité, ce dévouement. Dans l'œuvre du Seigneur, nous sommes parfois frileux ou réticents à donner. J'entends même des personnes dire, de manière spirituelle, « Oui, bon, mais je ne sais pas si je vais donner, je ne connais pas bien ce missionnaire, et je ne sais pas. » Et voilà, ils vont commencer à essayer de justifier. Bon, on doit être sage, je suis d'accord. Mais d'essayer de justifier bien des choses pour ne pas donner, en fait. Mais les religions humaines ne ménagent pas ceux qui les adoptent et même vont les spolier de leur richesse. Et les idoles vont tout accaparer. J'aime citer un couple qui s'est converti, qui était endetté. L'un était en train de boire et de fumer, l'autre, l'épouse, faire les vitrines, et donc ils n'arrivaient pas à subvenir à tous leurs besoins. Et ils croulaient sous les dettes. Et quand ils ont connu le Seigneur, tout a changé. Parce qu'ils étaient libres de ces idoles. Et alors, le changement a été radical. Et d'un seul coup, ils avaient même de quoi donner au Seigneur. Non pas parce qu'on leur exigeait, mais parce qu'ils avaient la joie de pouvoir le faire. Avec dévouement, ils cherchent un guide qu'ils voient. Ils sont généreux. Et puis verset 6, regardez avec moi. Au tout début du verset 6, il dit « Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. » Ils sont matinaux. Ils sont matinaux pour se détourner de Dieu et aller vers cette idole. Parfois, nous avons du mal à nous lever. Mais j'espère que ce n'est pas le cas pour le Seigneur. Que si nous avons besoin de nous lever pour le Seigneur, eh bien nous soyons prêts à mettre le réveil un peu plus tôt. À nous lever avec promptitude. Ici nous voyons qu'ils sont matinaux pour leurs idoles. Le matin, dans notre quartier, quand nous levons le dimanche matin, c'est le silence, pas un bruit. Mais il y a des fois, d'un seul coup, on voit la famille en face qui est agitée alors qu'eux d'habitude font la grasse matinée, les voilà levés de bon matin. Que font-ils? Eh bien, il y a du sport. Et les deux garçons sont de grands sportifs. Alors quand il y a le sport, allez, ils y sont. Et puis encore une autre fois, mais là c'était encore plus tôt. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez eux? Il y avait le vide-grenier. Alors, pour le vide-grenier, là, on est prêt à tout. Et on se rend compte que on est matinaux pour les idoles. Mais quand je vois des chrétiens qui ont du mal à se lever pour le Seigneur, mais c'est triste. Dernièrement, nous voyons qu'ils se détournent avec légèreté. C'est cette fin de passage 5 et 6, hein, on voit. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, Ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le passage ici décrit bien ce qui s'est passé et la descente inéluctable de celui qui se détourne de Dieu. Des fois, on dit « Bon, mais je fais juste un pas. » Mais si on fait un pas, on risque d'en faire un deuxième et un troisième. Et là, la descente est rapide. Aaron bâtit un autel et annonce la fête de l'Éternel. Du moins, la fête pour l'idole. Dans tous les cas, ici dans le début, personne ne s'est opposé. Et Aaron non plus. Et on va lui reprocher, bien sûr, par la suite. On les voit donc, premièrement, qu'ils vont offrir des sacrifices. Des sacrifices pour leur idole. L'être humain est prêt à faire de nombreux sacrifices, des abnégations, des pèlerinages, des bonnes actions pour leur Dieu. Je veux dire pour leur idole. Tant que ça leur flatte, tant qu'ils peuvent valoriser tout ce qu'ils ont fait, eh bien, ils sont prêts à faire des sacrifices. Ensuite, nous les voyons manger et boire. Et veillons à ce que les festivités ne soient pas un lieu de chute. Parce que justement, dans les festivités, bien souvent, autour d'un repas copieux, bien arrosé, c'est là qu'il y a des débordements. Nous savons que les excès sont condamnés par Dieu. Ensuite, il est question de se divertir. Au verset 18 de ce même chapitre 32, il dit « Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est une voix de gens qui chantent. » Et verset 19, « Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. » La colère de Moïse s'enflamma. On voit ici donc qu'il commençait à chanter, à danser, etc. devant leur idole. Ils se divertissent. Le terme « se divertir » est aussi très révélateur. Beaucoup de chrétiens, et on utilise parfois ce mot, on va se divertir, on a bien besoin de se divertir. Veillons à ce que, quel divertissement nous entendons. Qu'est-ce que nous voulons dire? Est-ce que c'est un moment de détente? Un moment où on veut passer du temps en famille? Un moment où du temps... Ou est-ce que c'est juste pour se divertir et dire « Allez, maintenant, je fais un peu tout et n'importe quoi. » Ici, le mot « divertir » exprime un côté sensuel, un côté sexuel. Les deux autres endroits qui sont où on voit ce terme, on peut y aller en Genèse. Genèse 26, verset 8. « Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit « Certainement, c'est ta femme ». Comment as-tu pu dire « c'est ma sœur » ? On voit ici le terme qui nous dit « divertir », je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est dit qu'Isaac plaisantait avec Rebecca. Il était en train de se divertir avec Rebecca. Quelle a été la conclusion d'Abimélec ? Certainement, c'est ta femme. Il dit « ça ne peut pas être ta sœur ». La manière dont tu plaisantes avec elle, la manière dont tu te divertis avec elle, ça peut que être ta femme. Un autre passage qui utilise ce même terme, c'est en Genèse 39, j'y allais sans... 39, verset 17. Il s'agit ici de Joseph. Alors elle, la femme de Potiphar, elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. » Là, c'est le terme « se jouer de moi » qui est le même terme hébreu pour dire « il s'est diverti avec moi ». Donc, exprime bien dans ce contexte qu'il y a quelque chose de sexuel. Donc, revenons à Exode. C'est que la descente de l'idolâtrie, des sacrifices, on est prêt à faire beaucoup de choses, on va manger, boire et finalement se divertir jusqu'à l'idolâtrie corporelle. Des choses charnelles jusqu'à l'adultère, la prostitution. Oui, la prostitution spirituelle va conduire à la prostitution corporelle. Et vice-versa. Dans les temples païens, il y a beaucoup de prostitution qui se faisait en son sein. On voit donc la légèreté qui caractérise les œuvres de la chair. Alors même si nous prenons un temps de détente, parce que je préfère ce terme que de divertissement, un temps de détente, l'enfant de Dieu reste fidèle, prudent et plein de foi en son Dieu. On voit donc qu'ils se sont détournés. Je veux rappeler les différents points que nous avons vus. Ils se sont détournés avec promptitude, ils se sont détournés avec peu d'imagination. Ils se sont détournés avec dévouement et ils se sont détournés avec légèreté. Est-ce que vous avez vu dans ce détournement la foi ? Non, pas du tout. Ils se sont détournés vers quelque chose qu'ils voyaient et ils ont fait pratiquer des choses pour qu'ils satisfaisaient leur chair, eux-mêmes. Il n'y avait pas la foi. Ainsi nous-mêmes, nous devons nous garder. Il est dit en Luc 18, 8, en parlant des derniers temps, Luc 18, 8, il est dit, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Il parle de cette femme qui prie instamment avec persévérance. Mais, et c'est la fin, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il pose cette question. C'est que beaucoup se seront détournés vers des idoles. Y aura-t-il encore certains qui auront la foi ? Et puis en Luc 12, 45, ou bien à partir du verset 42, il dit, le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde, il tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas et le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Si la parole de Dieu ne trouve pas la foi dans notre cœur, eh bien, l'homme va retomber dans l'idolâtrie. Il aura peut-être suivi pendant un temps d'autres qui, ayant une foi authentique, mais retombera dans l'idolâtrie. Et retombera dans tous les travers de son cœur, rempli de convoitise. Aujourd'hui, dans la foi, dans la chrétienté, dans le monde chrétien, la foi diminue et disparaît. Et donc, pas étonnant que l'idolâtrie, sous toutes ses formes, eh bien, se développe. La manifestation des égos, l'appât du gain, La débauche peut être plus subtile, un amour qui diminue, des raisonnements qui sont de plus en plus humains. Et aujourd'hui, dans l'Église, bien des églises sont conduites de plus en plus de manière humaine, non pas par la foi, en se disant « Seigneur, comment tu veux que je marche ? Seigneur, aide-moi à marcher dans tes voies. » Est-ce que nous avons une idole encore dans notre cœur ? Est-ce que nous sommes sur le point en train de nous détourner ? Le Seigneur connaît nos cœurs. Veillons afin de ne pas nous en détourner du Seigneur qui nous a rachetés.